Vous êtes chef d'entreprise.
Mon entreprise est une imprimerie qui est située à Lubumbashi. Bon, c'est ça mon activité première. Donc, j'œuvre là depuis de longues années, on va dire de longues années, parce que je ne veux pas me vieillir aussi. J'ai commencé par là et je m'étais dit qu'à partir d'un certain moment, quand on est une personne qui a eu de la chance d'avoir pu étudier, d'avoir quand même une certaine, disons, de ne manquer de rien essentiellement, il faut se consacrer à la vie de sa communauté. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai créé une ONG qui s'appelle Protection Enfants Sida.
Je vais d'abord revenir sur votre entreprise. Vous l'avez créée vous-même ?
Non, je ne l'ai pas créée. Cette entreprise existait, elle appartenait à mon père. Quand je suis venue au Congo, je suis rentrée au Congo, bon, j'ai travaillé un petit peu à Kinshasa, et puis je suis venue à Lubumbashi pour travailler là, pour reprendre les choses, oui.
Et ça marche jusqu'à maintenant ?
Oui, ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui, oui.
Et vous avez plusieurs services dedans ?
Ah oui, c'est une imprimerie, donc on a une imprimerie moderne, donc qui travaille en offset, bien sûr, et nous avons une assez grande clientèle, nous avons 50 personnes qui travaillent en temps plein dans l'entreprise, donc c'est une entreprise qui fonctionne.
Et vous pensez quoi quand une femme est chef d'entreprise ?
Je vais vous dire que personnellement, moi je trouve ça normal parce que ça fait longtemps que je le suis, mais je pense qu'au Congo, beaucoup de femmes sont capables d'être chefs d'entreprise puisque le commerce en général est tenu par les femmes. C'est parce que ici, le petit commerce, le commerce, un magasin, on n'appelle pas ça une entreprise. Si, c'est une petite entreprise.
Ouais.
Si vous avez 6 personnes ou 5 personnes qui travaillent pour vous, vous êtes une entreprise. C'est un peu ça. Donc je pense que la femme est très impliquée dans l'entrepreneuriat au Congo. Peut-être que ça doit être mieux structuré pour qu'elles aient plus de visibilité, mais les femmes font des choses très importantes. Hein. Déjà, si vous tenez tout le commerce informel d'un pays, vous faites beaucoup de choses.
Alors, vous avez dit que vous avez pensé travailler aussi pour la communauté. C'est comme ça que vous avez créé une ONG.
Oui, c'est ça.
Quelles sont les activités de votre organisation ?
Bon, c'est une organisation qui est créée maintenant depuis 2003. Et notre principale cible sont les enfants scolarisés, parce que nous travaillons beaucoup avec les enfants scolarisés et nous les sensibilisons par rapport au VIH-SIDA. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée là.
Oui.
Disons que j'ai toujours été très, très impliquée dans les mouvements caritatifs. J'étais au Lyonnais à l'époque, maintenant je suis au Rotary. Donc j'ai toujours eu une implication par rapport au milieu associatif. Et disons, pour aider les autres, parce que bon, comme je vous l'ai dit, si vous avez, vous, la chance de manger tous les jours, de pouvoir envoyer vos enfants à l'école, de les soigner, il faut vouloir que tout le monde ait les mêmes chances que vous. Et c'est en allant un jour dans un hôpital où on faisait des aides caritatives que j'ai vu une petite fille qui était enceinte. Bon, elle était petite parce qu'elle avait 12 ans et demi. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, etc. Et puis on m'a dit, vous savez, le problème n'est pas tellement qu'elle soit enceinte, le problème c'est qu'elle a le VIH-SIDA. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup troublée. Et j'en ai parlé à des amis autour de moi. Et on s'est mis ensemble pour se dire, c'est des choses qui doivent plus arriver. Que, bon, une jeune fille soit enceinte, c'est déjà pas bien, surtout à cet âge-là, mais surtout, quel est le VIH-SIDA, donc ça veut dire qu'elle a manqué de l'information nécessaire. Et c'est comme ça que nous avons décidé de créer cette ONG, la Protection Enfants-SIDA, et nous avons pris comme cible essentielle les enfants, mais les enfants scolarisés. C'était un peu une mesure de facilité, parce que bon, il est plus facile de travailler des enfants qui sont déjà encadrés que de dire on va prendre tous les enfants, parce que c'est pas possible. Alors ici, au Katanga, nous avons comme partenaire essentiel la division de l'EPSP, qui nous permet, avec qui on a un programme qui nous permet de travailler dans les écoles. Nous avons commencé par la sensibilisation comme tout le monde le faisait et nous avons vu qu'il n'y avait pas de changement, les enfants ne prenaient pas. Alors on a eu l'idée de mettre en place un programme original, un concept original que nous appelons la lettre du mois, qui est une histoire que nous racontons chaque mois et qui raconte l'histoire d'un enfant qui est infecté ou affecté par le VIH-SIDA. Et ce sont des histoires par rapport à des thématiques totalement de la vie courante, le SIDA par rapport à l'alcool, un comportement dangereux par rapport à la prise excessive d'alcool, par rapport à la prise de drogue, par rapport aux relations sexuelles que certains enfants ou jeunes ont avec des professeurs ou avec des adultes beaucoup plus âgés, par rapport aux croyances traditionnelles, aux croyances religieuses. Donc tout ça, on raconte ça sous forme d'histoire, des histoires qu'on nous raconte nous-mêmes parce que nous recevons beaucoup de témoignages vu que nous sommes dans une ONG. Et par rapport à cela, nous avons fait un questionnaire pédagogique auquel les élèves répondent.
Et là, vous dites que vous racontez une histoire. Vous pouvez nous donner juste un petit exemple pour que les auditeurs qui nous suivent se représentent. C'est quoi une histoire, par exemple, que vous racontez comme ça aux enfants ? pour permettre la sensibilisation sur le VIH-Sida.
Bah, par exemple, on peut raconter l'histoire d'un jeune garçon qui, à l'école, il vit normalement et puis il sait ce que c'est le sida, il en a entendu parler, il connaît les modes de contamination, mais il a une vie un peu volage, on va dire. Et puis en sortant dans les kermesses qu'il y a tout le temps, parce que les jeunes, c'est ça, c'est les seules distractions qu'ils ont. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma constructif et des choses comme ça. Et bon, il boit un peu trop d'alcool. Et il a une relation sexuelle non protégée. Ce qui fait que quelques mois plus tard ou quelques temps plus tard, il se rend compte qu'il est séropositif. Donc en fin de compte, du fait qu'il a bu de l'alcool, qu'il ne s'est pas rappelé ce qu'il devait faire. Des élèves pour avoir des points qui ont une relation sexuelle avec un professeur et ne sachant pas ni l'un ni l'autre l'état sérologique de l'autre et qui après un certain temps découvrent qu'elles sont séropositives. Des personnes qui dont les parents par exemple ont le VIH-Sida et qui décèdent et qui alors elles sont discriminées au niveau de leurs écoles ou dont on arrache les biens au niveau des familles parce qu'ils sont trop jeunes pour se défendre. Donc c'est toutes des histoires comme ça. Donc c'est le VIH-Sida au goût du jour, donc
oui, dans la vie courante,
quoi. On voit, parce que souvent on pense que le VIH-Sida c'est pour les autres, c'est pour les gens qui ont des vies dépravées, etc. Non, le VIH-Sida c'est pour tout le monde.
Oui. Alors vous dites que vous avez, avec l'appui d'autres partenaires, vous avez formé des responsables d'école et des inspecteurs pour pouvoir
utiliser
la lettre. Oui. Et quelle est la stratégie que vous avez apprise à ces personnes-là pour pouvoir utiliser la lettre du moins?
On a monté tout un concept, hein, c'est la méthodologie d'utilisation. Donc on explique vraiment pendant 3 jours. D'abord on leur donne les bases par rapport au VIH-Sida pour savoir connaître les modes de contamination, les modes de prévention, etc. Donc on leur apprend d'abord ça et ensuite on leur apprend vraiment à utiliser la lettre, c'est-à-dire une méthodologie, comment lire la lettre, comment analyser le vocabulaire, comment pouvoir répondre aux questions. Et par rapport à cela, ils nous remplissent des fiches d'évaluation où ils montrent leurs difficultés, les apports qu'ils ont eu par rapport à la lettre et tous les mois ils nous les renvoient. Comme ça nous savons aussi évoluer et ajuster notre travail au fur et à mesure.
Oui. Alors, la lettre du mois dans les écoles, elle est utilisée, je dirais, au cours d'une leçon ou c'est utilisé apparemment en dehors des leçons?
Non, disons que ça dépend des écoles. Souvent, les écoles l'utilisent au cours de français ou dans un cours d'éducation à la vie. Hein, d'éducation civique. Donc ça dépend un peu des écoles, ça dépend du professeur, ça dépend de l'approche du chef d'établissement. Mais en général, elle est utilisée donc en classe. Et les élèves, ils ont une lettre pour 10 ou 15 élèves, ils font un travail de groupe, et c'est un peu comme ça qu'on l'utilise, quoi. Et comme ça, vous vous posez les bonnes questions par rapport à la contamination. Comment a-t-il été contaminé? Pouvait-il l'éviter? A-t-il bien fait de cacher sa contamination? Etc. Donc c'est un peu tout ça, et ça oriente les gens pour savoir que quand on a le VIH-Sida ou quand on soupçonne qu'on a le VIH-Sida, il faut s'orienter vers des personnes spécialisées. Il faut s'orienter vers des ONG, il faut s'orienter vers des médecins spécialisés, qui s'appellent les médecins prescripteurs, que par rapport au VIH-Sida, il y a des traitements qui ne guérissent pas, parce qu'on ne guérit pas du VIH-Sida, mais qui vont vous soulager et vous permettre d'avoir une vie totalement normale. Ça vous permet de vous familiariser avec les termes qui sont les antirétroviraux, les médicaments, ce que c'est être séropositif, ce que c'est une séroprévalence. Ce sont toutes des terminologies qu'on voudrait qui rentrent dans la vie courante des gens, dans le langage courant.
Oui, alors Madame Léonie Candolo, est-ce que vous-même au niveau de votre organisation, vous êtes déjà allée directement en contact avec des élèves pour voir comment les jeunes gens réagissent à la lettre du mois?
Ah oui, 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 les jeunes me connaissent beaucoup dans les écoles parce que je circule beaucoup dans les écoles. Peut-être ces derniers temps, j'ai un peu moins de temps, mais les élèves en général me connaissent parce que je vais moi-même dans les écoles. Quand on fait les sensibilisations, nous allons dans les écoles. Nous avons été dans beaucoup d'écoles. Ici, au Katanga, nous travaillons dans 260 écoles. Donc, il est certain que je n'ai pas été dans 260 écoles, mais j'ai fait beaucoup d'écoles à Lubumbashi, une école à Kipushi, quelques-unes à Likasi, mais disons que nous sommes nombreux, je ne suis pas seule. Hein. Dans une ONG, vous n'êtes jamais seule, parce que autrement, ce n'est plus une ONG.
Oui. Oui.
Donc ça veut dire que les membres du groupe le font. Oui.
Oui. Alors, parce que vous avez participé à cette réflexion sur les accords sur la stabilité et la paix dans les pays des Grands Lacs, au niveau des femmes, quel est l'engagement que les femmes ont pris pour pouvoir participer à la mise en application de ces accords-là?
Bon, les femmes sont déjà impliquées, hein, parce qu'il faut quand même voir que tous ces traités, comme les femmes participent en général, là, on s'appuie quand même sur tous les documents internationaux et africains qui ont été signés, notamment la CEDEF, auquel le Congo, bien sûr, a adhéré, hein, qui est l'élimination de toutes les formes de discrimination, ouais, par rapport aux femmes, ouais, par rapport au 1325, notre fameuse résolution 1325, ouais, des femmes, et en 2004, à Dar es Salaam, sur l'accord des chefs d'État pour l'égalité des femmes en Afrique, l'Union africaine, quand même, à accepter ce protocole d'accord. Donc, on s'appuie un peu tout ça pour que les femmes soient parties prenantes, hein, notamment dans l'observatoire qui va être mis en place, notamment à tous les niveaux, hein, que la femme soit vraiment représentée, que les programmes par rapport aux réparations qui doivent être faites pour les femmes soient vraiment pris en compte, parce que les femmes ont beaucoup souffert. Et souvent, dans les programmes DDR, les femmes ne sont pas assez reprises en compte dans les programmes de réparation, parce qu'il y a beaucoup de programmes par rapport aux gens qui sont démobilisés, donc aux hommes en armes, qui étaient en armes bien sûr, mais il y a peu de programmes par rapport aux femmes. Or, les femmes doivent se réinsérer également. Quand vous avez...
Les femmes épouses de ces hommes démobilisés ou les femmes qui ont aussi été démobilisées?
Ah non, non, pas les femmes démobilisées. Il y a très peu de femmes qui étaient en armes.
Ah, donc vous parlez des femmes qui ont épouses des...
Non, 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 les femmes qui ont subi des violences.
Ah, ok.
Voilà. Vous savez, quand vous avez été violée, quand vous avez subi de grandes violences, quand vous avez... vous devez vous réinsérer dans la société, c'est pas facile, hein.
Oui,
vous
avez, or, il n'existe pas de programme.
Il y a très peu de programmes, oui, ils sont très faibles. Ce sont surtout des programmes au niveau des ONG. Et tout ça, on a dû réfléchir à ça, hein, parce qu'on ne peut pas reconstruire un pays si on ne pense pas à tout ça. Il faut penser à tous ceux qui ont souffert. Il faut penser à toutes ces femmes-là. Il y a des hommes aussi qui ont souffert. Donc, il faut vraiment essayer de penser les plaies de chacun pour qu'on puisse aller ensemble de l'avant.
Oui. Alors, madame, nous avons dit au début de cette émission que vous portez plusieurs casquettes.
Oui.
Vous êtes également membre de l'Espace Femmes.
Oui, je suis. L'Espace Femmes. Oh, l'Espace Femmes, c'est un cadre de concertation des femmes aussi. Et là, disons que c'est un peu différent parce que là, on a été élu à l'Espace Femmes. C'est parce que je suis membre de WOPA que j'ai été élu à l'Espace Femmes. C'était une élection avec les femmes des ONG. Et l'Espace Femmes, c'est un cadre qui veut donner de nouvelles compétences aux femmes. Donc, où il y aura des formations. C'est un programme qui fait partie, en partie du ministère du Plan, et c'est un montage, hein, donc
c'est vraiment... créé au niveau national, au niveau de...
Oui, c'est au niveau national. Il y a l'Espace Femmes national et puis dans toutes les provinces. Et là, c'est surtout pour donner des compétences aux femmes. Hein. C'est pour des formations, pour des échanges avec d'autres pays, etc. Parce que sans compétences, où allons-nous aller?
Ouais.
Vous savez, les femmes parfois me disent, oui, mais madame, pourquoi on fait pas les réunions en Swahili, je dis, ou en Lingala, ou quoi? Je dis, non, on peut pas, on doit faire. Vous savez, si on veut, si demain il y a une formation pour les femmes qui font l'agriculture, la culture du manioc au Burkina Faso, bah, il faut pouvoir parler français pour comprendre. Et pour pouvoir aller à ces formations. Donc, moi, je voudrais que les femmes aient le plus de compétences possible, qu'elles puissent s'adapter aux nouvelles technologies, qu'elles puissent utiliser l'informatique, qu'elles puissent apprendre l'anglais si c'est possible. Donc, toutes ces choses-là, je crois que c'est très important pour les femmes.
Et ça, c'est dans l'Espace Femmes?
Oui, ça, c'est l'Espace Femmes qui va avoir des programmes. Mais disons que nous ne sommes pas encore vraiment en fonctionnement, on peut dire ça comme ça.
Oui, donc ça vient juste d'être mis en place.
Disons que c'est mis en place depuis près d'une année et demie, mais les bureaux viennent d'être équipés, nous attendons le matériel qui arrive. Vous voyez, les choses sont un peu longues, hein, quand les financements viennent de l'étranger, etc. Les choses sont toujours un peu longues, oui.
Oui. Et au sein de l'Espace Femmes, vous regroupez toutes les femmes, ou ce sont les femmes des ONG?
Non, ce sont les femmes des ONG et des associations. Disons que l'Espace Femmes regroupe des associations, voilà.
Oui, oui. Et pour, comme on a maintenant l'habitude de dire, renforcer les capacités des femmes.
Voilà, voilà. Des hommes aussi d'ailleurs, hein, oui. On doit renforcer les capacités de tous les Congolais, je crois.
oui, alors on va terminer par là, madame Léonie Kandolo. C'est vrai que vous êtes vraiment engagée en tant que femme dans plusieurs actions, mais jusqu'à présent on voit encore très peu de femmes engagées comme vous.
Non, il y en a beaucoup, parce que moi j'ai suivi aussi le chemin des autres, hein. J'ai suivi des femmes qui ont commencé avant moi. Il y a quand même des femmes qui ont créé les premières ONG en 1990-91, hein. Le FCDD de madame Annie Kalonji, c'est quand même un mouvement qui existait. Si je suis rentrée dans WOPA, c'est parce que WOPA existait. Mais je pense qu'il faut que chaque femme prenne conscience que le combat commence avec elle et que le combat doit continuer.